Matière à penser, Dominique Rousset.
On parle ce soir d'inégalité entre les sexes, ou plutôt de traitement différencié, car les inégalités et donc les injustices ne sont pas forcément perçues partout ni par tous. Autant dire que mon invité, qui connaît bien cette question et qui la travaille depuis déjà de nombreuses années, a poussé aussi loin que possible dans un nouvel ouvrage une réflexion déjà engagée sur la manière dont se construisent les représentations sociales, les stéréotypes, les résistances aussi, voire les dénégations ou les interprétations erronées. Et elle aboutit à des conclusions qui peuvent surprendre, qui peuvent bousculer, et c'est tant mieux. Égalité homme-femme, toute une vie à l'attendre. Bonsoir Marie Durubela.
Bonsoir.
Professeure émérite à Sciences Po, chercheuse à l'Observatoire sociologique du changement et à l'Institut de recherche sur l'éducation, l'IREDU, Université de Bourgogne. C'est important de parler d'éducation d'emblée, hein, car après de très nombreux ouvrages sur des politiques éducatives, sur les inégalités sociales et sexuées dans le système scolaire, vous venez donc de faire paraître cette tyrannie du genre à la fin de l'année dernière dans une collection, je le signale au passage, aux presses de Sciences Po, dirigée par Hélène Périvier et Janine Mossulaveau, et dont le titre de cette collection, c'est justement « genre », précisément ce terme que vous mettez en cause, vous lui préférez celui de « sexe », pourquoi d'un mot ?
Ben disons que quand on parle de genre, on a l'impression qu'on ne parle plus de sexe, que finalement on parle de quelque chose qui est social et donc l'avenir est ouvert, voilà, on est libéré de ces contraintes naturelles, etc. Et en fait, je trouve que bien sûr chez les chercheuses, c'est peut-être le cas, mais dans sa diffusion large, que ce soit auprès des médias de tout un chacun, maintenant tout le monde parle de genre, ça paraît plus politiquement correct, est-il si sûr qu'on se détache véritablement de cette binarité des sexes, hommes et femmes? Et la réponse est, non, pas toujours. Par exemple, on reviendra sans doute là-dessus, mais l'exemple de la parité. On dit, voilà, la
parité. On
va y revenir.
Allez-y.
Donc la parité, théoriquement, c'est, on va représenter les hommes et les femmes parce qu'ils ont des rôles différents, etc. Mais quand on gratte les arguments, ce qui revient toujours, c'est la maternité. Les femmes sont des mères et c'est ça qui va leur donner des intérêts ou des compétences éventuellement spécifiques. Donc derrière le genre, on retrouve vite en fait le sexe et la nature. Et donc ça, c'est peut-être un piège parce qu'on parle de plus en plus de genre et donc peut-être subrepticement, on parle de plus en plus d'un état de fait qu'il convient de respecter.
Auquel nous serions assignés les uns et les autres, parce qu'on va parler aussi de l'effet que cela peut produire pour les hommes. Auparavant, tout de même déjà votre parcours, et puis je voudrais le signaler pour nos auditeurs, nous enregistrons nous cette émission le 8 mars, journée du droit des femmes, et nous l'avons passée donc avec un peu de décalage. L'importance de cette journée, est-ce que ça rejoint ce que vous venez de dire? Ça vous agace un peu qu'on stigmatise comme ça ou qu'on se centre sur quelques heures dans une année?
Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette journée, elle est internationale. Il y a des pays où la violence envers les femmes, elle est tellement évidente qu'il faut une journée. Bon, dans nos pays, c'est plus subtil. Et dans nos pays, ça peut agacer parfois qu'on parle des femmes comme d'un groupe qui serait clairement et toujours et partout défavorisé et qui s'oppose à un groupe toujours et partout favorisé, les hommes. Je pense que c'est nous, chez nous, les inégalités prennent une forme plus subtile. Ça s'entremêle avec d'autres paramètres qui jouent tout autant, voire plus dans certaines situations. Et donc, de temps en temps, ça peut agacer d'être considéré comme automatiquement défavorisé. Quand je me dis « je suis une défavorisée », on dit « quand même ».
Vous n'êtes pas d'accord.
Non.
Vous êtes féministe, Marie Durubela?
Absolument, sans aucun doute. Oui.
Qu'est-ce qu'être féministe?
C'est l'évidence qui consiste à dire « je suis une personne comme les autres ». Et donc, il n'y a pas de raison que, parce qu'il se trouve que j'ai un sexe qui est comme ci et pas comme ça, j'ai des droits et des possibilités dans la vie qui soient inégales aux hommes.
Alors tout commence, je l'ai signalé, je voudrais signaler la constance de votre travail sur les inégalités sociales et les inégalités sexuées, donc entre hommes et femmes, mais entre petits garçons et petites filles, et entre petits bébés féminins ou masculins. Donc tout commence avec les politiques éducatives, vous les avez très, très longuement étudiées. Je voudrais rappeler un petit peu plusieurs débats que vous avez eus, parce que celui-ci aussi va faire débat, cette tyrannie du genre que vous dénoncez. Débat déjà plus ancien, je crois que c'était vers 2010 ou 2011, les sociétés et leur école. Vous avez soutenu contre beaucoup d'économistes, notamment bien sûr la toute-puissance de l'OCDE, Organisation de coopération de développement économique, des pays développés. Vous avez soutenu qu'au fond, le diplôme pouvait être contre l'égalité. Est-ce qui a surpris ou choqué?
Oui, bien sûr. J'ai même eu un titre un petit peu plus fort, même aux presses de Sciences Po en 2009. C'était « Le mérite contre la justice ». Donc, qui exprimait tout à fait
la
thèse, voilà. À savoir, parce que c'est une forme de discrimination, le diplôme. Alors qu'on trouve légitime dans nos sociétés en disant, les plus diplômés, ils méritent d'avoir plus, de gagner plus, d'avoir des positions plus attractives que les moins diplômés. Or, toute la sociologie de l'école montre que la réussite scolaire, et ça, tout le monde en conviendra, ne fait pas que refléter les mérites des personnes. Parce que les personnes grandissent dans un environnement et qu'elles ont, certains vont trouver dans leur berceau quasiment les conditions de la réussite scolaire et donc du diplôme. Et donc ceci sera sanctionné dès lors qu'on donne une place importante au diplôme. Donc je pense que là, il y a un problème pour les sociétés comme nous, ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter aux orties l'école et ses diplômes. Mais en tout cas, il ne faut pas penser si sereinement que c'est un gage d'égalité.
Oui, c'est-à-dire en fait, vous le situez à deux niveaux. Le niveau individuel, vous venez de la bonté, et même le niveau de la croissance d'un pays. Car dans les études de l'OCDE, les pays les plus instruits, où les jeunes accèdent le plus aux diplômes, et sont les plus nombreux à y accéder surtout, sont les pays qui se développeraient le mieux. Ce qui n'est pas pour vous
non, si au-delà, dans certains seuils, ce n'est pas évident. D'ailleurs, l'OCDE commence, j'ai trouvé dans les propos de l'OCDE, il commence à dire qu'il y a peut-être des effets de saturation, comme disent les économistes. Au-delà d'un certain seuil, personne ne dira, par exemple, que aux États-Unis, qui est un pays objectivement très instruit d'un point de vue formel, il y a une cohésion sociale qui est remarquable pour cette raison, que le civisme est plus développé, qu'il y a moins de criminalité. Tous ces bénéfices de l'éducation.
Qu'on est plus tolérant, qu'on a plus de confiance mutuelle.
C'est pas si évident. Et puis, on a beaucoup d'exemples en Europe de pays qui ont beaucoup développé l'éducation, je sais pas, par exemple l'Espagne, et qui pour autant n'ont pas vu le chômage des jeunes se réduire drastiquement. Donc, tout ça est un peu plus compliqué que des relations linéaires.
Donc, ce n'est pas parce que les personnes se classent un peu selon leur niveau d'instruction qu'elles vont être dans un pays plus avancé.
Disons que ce qu'une société fait des plus diplômés, après, ça dépend beaucoup des pays. Mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. Alors, c'est vrai que pour les femmes, pour revenir à notre sujet, pour les femmes, l'accès à l'éducation a été quelque chose d'assez décisif. À l'heure actuelle, si on regarde l'insertion des jeunes femmes, il y a plus de jeunes femmes qui deviennent cadres que de jeunes hommes. Alors après, ça se dégrade vite quand elles entrent dans la vie familiale. Mais au niveau de l'insertion, ça a été un sacré plus pour les femmes.
J'insiste encore un peu pour nos pays européens. Tout ça part au fond, bon, l'OCDE d'accord, mais tout ça part aussi de l'agenda de Lisbonne, on s'en souvient, mais on trouvait tous ça formidable comme idée. C'était en 2000, l'agenda de Lisbonne qui s'était fixé comme objectif, nous sommes en 2018, on va voir, que de faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Et c'est au fond ce que vous dénoncez un petit peu, c'est cette obsession du classement, de la comparaison entre pays.
Oui, et aussi ce mépris que ça impliquait pour les autres pays. Parce que l'Europe, on était censé être les plus forts, les plus malins. On allait se garder la connaissance et faire fabriquer nos chaussettes par les pays un peu pauvres. Eh bien, ils ont montré qu'ils étaient aussi malins que nous. Et à l'heure actuelle, un certain nombre de pays émergents ont considérablement développé leurs recherches et damnent le pion aux diplômés des pays les plus riches. Donc, moi, c'est ça qui m'avait beaucoup choqué aussi.
Vous trouvez ça prétentieux?
Oui, exactement. On va se garder la connaissance et il y aura donc une nouvelle division du travail et les plus pauvres travailleront pour les basses besognes. Et en fait, l'actualité et le développement des pays les plus pauvres montrent que c'était vrai. Il n'y a pas eu d'explosion de la connaissance. Et de plus, dans nos pays, les emplois pour lesquels on manque le plus de main-d'œuvre et qui quantitativement sont les plus nombreux de bancs, ne sont pas forcément tous des pays qui demandent un haut niveau d'instruction. Il y a tout ce secteur, la personne, etc. Ce n'est pas un petit secteur. Alors, il est méprisé peut-être parce qu'il est féminin, mais en tout cas, c'est un secteur d'avenir.
Ouais. Alors, revenons à l'aspect plus individuel et à l'actualité. Tenez, une réforme de la formation professionnelle va dans le bon sens pour les femmes et pour les hommes.
Oui, bien sûr. Bah après, c'est une réforme. On verra. Tout est dans l'exécution.
Tout est dans ce qu'elle contient.
Nous verrons.
Et sur le principe.
Oui, bien sûr. Développer la formation continue, c'est tout à fait important. Alors après, il faudra voir si ça peut se réaliser aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Ce qui caractérise les carrières des hommes, c'est leur caractère discontinu. C'est que souvent, elles vont s'arrêter, reprendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que leurs retraites vont être minorées. Donc, il faudra s'assurer qu'elles y accèdent. L'égalité des chances, ça c'est un paramètre fondamental et donc il faudra s'assurer que ça marche aussi.
Et l'école, vous continuez de le dire, fabrique les inégalités?
Elle co-fabrique avec la famille. La famille est très importante et il est normal que l'école ne puisse pas tout dans les sociétés. L'école participe à l'éducation de l'enfant comme la famille, mais elle a un rôle sans doute plus important qu'elle ne pense parce que officiellement, les élèves n'ont pas de sexe. On élève les petits-enfants dans l'école de la République pour qu'ils deviennent de bons citoyens, etc., etc. Or, l'école n'est pas épargnée par l'influence diffuse des stéréotypes, des représentations. Il n'y a pas de raison de penser que les enseignants sont tous des militants avertis et aguerris de l'égalité. En plus, ils ont peut-être une définition de l'égalité qui n'est pas la même. Il y a plusieurs définitions d'égalité. Et donc, l'école va participer, parfois accentuer, mais c'est aussi parce qu'à l'école, il y a des camarades. Donc, il y a des profs, mais il y a des camarades. Et les pères, comme on dit, ça joue aussi beaucoup.
Oui, et vous avez toujours fait ce parallèle entre inégalité sexuée, donc dont vous parlez là, qui est fabriquée dès la petite enfance, et inégalité sociale.
Oui, bien sûr, mais j'aurais pu aussi travailler sur les inégalités entre groupes ethniques, entre les régions d'origine. Hein. L'inégalité, c'est ce qui nous choque par rapport au principe d'égalité des chances. Donc j'aurais pu l'appliquer à d'autres caractéristiques des personnes, les handicapés, etc. Bon, on est toujours un peu spécialisé quand on fait de la recherche. Et donc moi, j'ai commencé plutôt par les inégalités sociales. Je m'intéresse plus maintenant aux inégalités genrées, mais je me suis aussi intéressée aux inégalités selon le lieu de naissance, hein, parce que j'ai regardé un petit peu les inégalités internationales, les inégalités entre pays, hein, le fait qu'un petit enfant qui naît en Zambie a une espérance de vie deux fois plus faible que quelqu'un qui naît en Islande, c'est une inégalité massive aussi, et elle n'est pas plus justifiable que les autres. Hein. Donc toutes les formes d'inégalité...
On le voit même entre régions, hein, dans un même
pays. Mais
bien
sûr, hein. Donc j'aurais pu et je pourrais encore...
Non, ce que je voulais dire, Marie Duribella, c'est que si l'on associe inégalité sociale et inégalité genrée, comme vous dites, là on revient sur une situation bien française, qui vous paraît quand même une caractéristique un peu inquiétante de notre pays, c'est montré par des enquêtes européennes, et ça aboutit à un pessimisme des jeunes Français. Manque de confiance en eux.
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le fonctionnement de l'école. Ça, c'est une optique plus qualitative hein, sur le fonctionnement de l'école, qui fait qu'on a une école qui est très marquée par l'exigence de classement des élèves, de mise à l'écart des élèves les plus faibles. Il y a une exigence de comparaison. On compare sans arrêt les élèves, on évalue les élèves publiquement. Et c'est vrai que les élèves ont très tôt le sentiment d'être dans un tunnel. Les étudiants le disent, hein, les comparaisons internationales qui ont été faites. Bon, les étudiants français ont l'impression que quand ils choisissent, par exemple, leur orientation, ou qu'ils ne choisissent pas d'ailleurs, c'est toute leur vie qui en dépend. Donc ça, c'est quelque chose d'assez français et qui nourrit un certain pessimisme.
Oui, qui nourrit un certain pessimisme et qui, entre les femmes et les hommes, enfin les petites filles et les petits garçons, intervient assez tôt aussi.
Je ne suis pas sûre. Je pense qu'à l'école, les filles peuvent penser que tout est joué. D'ailleurs, les adolescentes peuvent se dire que l'école, pour elles, c'est quand même, c'est plutôt une longueur d'avance. Elles vont avoir le bac plus souvent, elles vont faire des études plus accéder aux études supérieures. Je pense que pour les filles, c'est plutôt après que ça vraiment, quand elles vont entrer dans la famille, justement, c'est là le choc. Elles pensaient que tout était possible, et là, elles voient que c'est quand même compliqué.
Autre inégalité, mais je reviens sur vos travaux, mais c'est une manière de montrer comment vous êtes arrivé jusqu'à cette dénonciation de la tyrannie du genre. Vous avez fait aussi ce lien très direct entre les inégalités sociales et les questions environnementales, hein, qui sont une de vos autres préoccupations, avec une réponse, cette double crise qui est évidemment toutes les campagnes, les politiques de développement durable qui restent encore insuffisantes, et vous plaidez pour une décroissance des inégalités. En même temps, c'est une décroissance économique peut-être.
Absolument, parce que je pense que ça c'est en réfléchissant vraiment au niveau de la planète, parce que c'est une perspective aussi tout à fait fondamentale, et on voit bien que le fait qu'il y ait des inégalités sociales aussi massives entre pays engendre une course en avant. Moi j'ai été frappée, j'ai voyagé comme tout un chacun dans des pays pauvres, et ce qui est très frappant c'est de voir dans des pays très pauvres les gens qui regardent à la télé des séries américaines. Parce qu'ils voient le luxe qu'on a. Et on se dit, mais comment ne se révoltent-ils pas? Alors, ils se révoltent peut-être pas, mais ils vont migrer. Hein, ils vont se dire, dès que je peux, ben, je vais aller là. C'est un Eldorado, etc. Et ça va poser, je ne dis pas que les migrations sont aussi, bien entendu, mais ça va poser des problèmes à la fois au pays de départ, au pays d'accueil. Donc, il y a des telles inégalités qu'on va avoir envie soit de s'en aller, soit de les imiter. Et donc, ça va nourrir une course en avant vers un développement qui est souvent, on le voit dans ces pays pauvres, un pseudo-développement avec accumulation de signes extérieurs hein, ou faire comme en Occident, qui est ingérable par la planète, qui est absolument ingérable. Et ça, c'est vraiment l'inégalité. Et c'est pas simplement la pauvreté qui pose problème, c'est vraiment l'inégalité parce qu'elle engendre cette course à la croissance et à l'accumulation de biens pour faire comme les autres. Et on diffuse un modèle occidental de personnes heureux, enfin qui a l'air heureux, parce qu'il a plein de biens. Et donc, je pense que ces inégalités nous amènent forcément à poser la question de la décroissance, une décroissance sélective, dire ben finalement quand on a déjà un tel niveau, il n'y a pas besoin qu'on ait plus, mais évidemment, on n'interdit pas, enfin je ne sais pas comment on le ferait d'ailleurs, aux pays les plus pauvres de gagner hein, de leur côté. Donc c'est un problème d'équilibrage, parce qu'on ne peut pas sur une planète unique avoir tant de déséquilibres. Ça me paraît vraiment intenable.
Inégalité qui frappe peut-être les femmes plus que les hommes, en tout cas en termes environnementaux.
Oui, alors dans les pays pauvres, c'est vraiment
dans les pays
femmes,
pauvres, c'est, ce
hein, dans les, c'est vraiment les femmes qui vont d'abord gérer les problèmes quotidiens d'eau, hein, de souvent de culture aussi d'ailleurs. Hein. Elles vont être exposées aux pollutions parce qu'on fait cuire dans des conditions qui font qu'elles respirent tous les gaz, etc. Elles seront moins soignées, moins nourries. Hein. Donc dans les pays pauvres, c'est particulièrement criant. Dans les pays riches, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait vraiment regarder en détail que les femmes souffrent plus de la pollution que les hommes dans les pays riches. Alors, il faudrait regarder.
Hein, non.
C'est pas. Voilà.
Marie Durubella, donc vous arrivez à cette tyrannie du genre que vous venez de faire paraître. Un essai, une réflexion très ouverte, hein, vous proposez cette réflexion. Pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? On va bien entendu avoir l'occasion de parler de cette actualité, hein, de la parole ouverte et offerte aux femmes un petit peu plus qu'auparavant.
Pourquoi maintenant? Parce que je ne lisais pas de choses sur ce qui me paraissait le plus important dans les inégalités hommes-femmes. Je suivais les travaux de toutes mes collègues, hein, sur le genre, notamment sur les inégalités de salaire, où il y a vraiment toute une littérature économique et sociologique très développée. Mais j'avais l'impression qu'on manquait un angle qui me paraissait essentiel, qui était plutôt l'angle justement de ce qui se passe par rapport au corps, par rapport aux normes, que ce soit les normes de beauté, etc. Enfin, tout ce qu'on voit sur le marché, il suffit de regarder une maison de la presse. Hein. Je me disais, mais enfin, tout ça, on n'en parle pas assez. Je ne dis pas qu'on n'en parlait pas du tout, mais on n'en parle pas assez. Donc, j'ai voulu me centrer sur ce qu'on appelle, dans le jargon sociologique, la domination symbolique, tout ce qui va passer par les mots, par les normes, etc. Parce que je trouvais que la domination matérielle, qui n'était, je ne sais pas, pour la sous-estimer, elle était relativement bien documentée.
Oui, voilà, c'est ça. Vous vous intéressez pas, je le dis, hein, parce que c'est pas sur les inégalités, justement, les écarts de salaire, par exemple, dont le sujet éminemment important, mais de votre point de vue, très renseigné déjà. Donc, c'est vraiment ce versant subjectif, ce versant psychique, hein, du genre qui vous a intéressé. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. After man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing, not one little thing without a woman or a girl.
France Culture, Matière à penser, Dominique Rousset.
Avec Marie Durubella, sociologue, spécialiste des questions d'éducation et des inégalités sociales et des inégalités de genre également, qui vient de publier La tyrannie du genre. Et tout d'un coup, ce terme-là, qu'elle a beaucoup utilisé, comme beaucoup d'autres, elle le remet en question, comme on l'a vu. Il y a un paradoxe, hein, à la fois des controverses sur le genre qui ont conduit à cette célébration croissante des différences entre les hommes et les femmes, et vous finissez par trouver qu'il y a un danger.
Oui, parce qu'il faut en parler. Donc ça, c'est clair, il faut en parler. Rien ne serait pire que de mettre sous boisseau ces inégalités. Mais en même temps, on met du genre partout, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le moindre comité des fêtes se dit « Ah, il faut que j'ai des femmes, il faut que j'ai des hommes. » La moindre association, la moindre publication, etc. Et on finit par se dire qu'on est avant tout des hommes et des femmes. C'est ça qui me gêne. C'est ce thème de mettre en avant toujours cette caractéristique qu'on a, certes, mais on en a d'autres. Et dans certains contextes, peut-être qu'on aimerait mieux mettre en avant d'autres caractéristiques, que ce soit, je ne sais pas, sa religion, le fait d'être sportif, le fait d'être de tel milieu culturel ou géographique. Donc, pourquoi mettre en avant toujours cette caractéristique?
Oui, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites qu'il faut accepter. Enfin, on peut être... Il y a mille façons d'être une femme, voilà, ou un homme. On va vous dire quand même, Marie Durubella, que vous vous opposez, au fond, à cette construction des inégalités. Pourtant, vous l'avez tellement étudiée vous-même et démontrée vous-même. Vous ne craignez pas ce type de critique?
Non, je ne pense pas que je m'oppose à la construction des inégalités. Je dis les inégalités, et d'ailleurs, je rejoins tout un courant féministe qui met en avant ce terme un peu barbare, peut-être, d'intersectionnalité, qui dit, en fait, une personne n'est jamais que un sexe. Elle a telle autre caractéristique, et c'est tout ça qu'il faut mettre en avant pour comprendre sa situation. Donc je ne mets pas du tout en cause ça. Là, effectivement, où je suis dans une contradiction, c'est que on est plein de caractéristiques, mais si on veut militer pour faire changer les choses, il faut bien créer des solidarités sur la base d'une caractéristique. Je fais partie du groupe des femmes, et je peux aller à une manifestation de femmes, pour certaines causes, des femmes. Donc c'est là qu'est la tension, c'est-à-dire que pour les militantes, il faut bien se constituer en tant que groupe. Et à ce moment-là, on gomme les autres différences, théoriquement. Mais dans la vie quotidienne, c'est plutôt l'utilisation courante du genre qui me choque. Hein, dans la vie de tous les jours, le genre comme une contrainte sans arrêt mise en avant.
On va voir sur l'actualité les mesures qui sont proposées, notamment par beaucoup d'associations féministes qui ne vont pas forcément dans votre sens. Auparavant, quand même, ce qu'on apprend dans votre livre, ou en tout cas ce qu'on vérifie peut-être, qui est assez effrayant, c'est que de plus en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les petits garçons et les petites filles, ça commence donc très très tôt, avec les jouets, avec les jeux, bien entendu, ce qu'on leur propose... On offre un aspirateur à la petite fille et un camion au petit garçon, ceci est bien connu. Eh bien, c'est de plus en plus prononcé. Et l'autre affaire, et d'ailleurs une récente polémique autour d'un ouvrage paru sur les petites filles, sur les jeunes filles devenues adolescentes aux éditions Milan et qui a fait beaucoup parler, le démontre. L'autre point, c'est que de plus en plus, les filles et les adolescentes sont assignées à devenir plus sexy, plus séduisantes, plus féminine, je ne sais pas comment on le décrit.
Sexualisée, parce que voilà. Ça devient des objets.
Mais dans les ouvrages, dans les films, c'est impressionnant.
Absolument.
Détailler un peu cela, parce qu'on
a cette évolution qui a été dénoncée dans les pays anglo-saxons, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. On a dénoncé ce qu'on appelle la sexualisation de plus en plus précoce des petites filles, qui est très frappante pour les gens de ma génération. Moi, quand j'ai élevé mes enfants, la mode était plutôt à l'unisexe. Hein, on avait un garçon et une fille, on offrait les mêmes jeux, on mettait les mêmes habits.
On essayait en tout cas.
Exactement, on essayait bien entendu.
Voilà. On les habillait pas forcément bleu, rose.
Non, exactement, mais voilà, c'était plutôt tendance. Alors, on a l'impression qu'avec l'enrichissement, il n'y a sans doute pas que ce seul facteur, mais avec l'enrichissement de la société, il faut quand même développer les marchés. Et pour développer les marchés, il faut segmenter les publics. Et donc, de plus en plus, on a développé des gammes de jeux. Par exemple, Lego, qui était un jeu parfaitement mixte, elle fait des gammes de jeux spécifiques pour les filles. Au lieu de construire des avions, elles vont construire des ongleries, des salons de beauté, etc. Donc, il y a un développement de la sexuation des jeux et des habits, en partie lié à l'enrichissement, je pense, de la société.
Mais il y a aussi... Ça, c'est lié, c'est l'intérêt économique, au fond.
Oui,
c'est
absolument.
Parce que ça se vend bien.
Oui,
voilà.
Ça se vend bien, ça se vend mieux.
Ça développe mieux.
Ça fait deux gammes au lieu d'une. Voilà. Voilà. Et donc, quand on a un vélo pour sa fille et qu'il faut changer, voilà, on va changer de vélo. Donc, ça, c'est, on peut l'interpréter comme ça. La sexualisation croissante, c'est plus difficile de l'expliquer exactement dans la même logique. On sait qu'il y a eu l'explosion de l'industrie du porno, qui représente la femme sous forme d'un objet sexualisé, très sexualisé, qui diffuse chez les enfants. Il y a une presse aussi qui diffuse chez les enfants. Et on observe que de plus en plus, et très tôt, les petites filles vont être sommées de se présenter comme un objet sexuel. Alors, aux États-Unis, il y a des soutiens-gorge pour des petites de 7 ans. Il y a des strings pour les petites filles de 7 ans, etc. Bon, dans les pays européens, on est un peu C'est un peu plus tard, disons. Mais il y a quand même cette évolution-là, et chez les petites filles aussi. Moi, j'étais frappée, il se trouve que j'ai une petite fille qui me dit, ben maintenant, elle trouve que c'est obligatoire pour les filles d'avoir les cheveux longs. Elle a 9 ans et toutes les filles ont les cheveux longs. Et regardez, dans une cour de récréation maintenant, les filles, elles ont les cheveux longs, parce que les cheveux courts, c'est comme les garçons. Hein. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on découvre, hein, alors que ce n'était pas du tout comme ça il y a quelques années. Donc il y a vraiment une accentuation. Si on va dans les collèges, hein, c'était la même chose.
Portée par le cinéma, portée, on l'a dit, par la littérature. Blanche-Neige.
Oui, bien sûr, qui a des gros seins. Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Qui ne les avait pas il y a 20 ans.
Exactement. Et les représentations sont de plus en plus sexuées, c'est accentué.
Les poupées, on va citer quelques marques, mais enfin, elles sont si connues. Les poupées Barbie, bien sûr, de plus en plus sexuées également. Oui, bien sûr. Elles l'étaient déjà au début.
Elles l'étaient déjà, mais maintenant, il y a les poupées Bratz. Enfin, il y a tout un univers des poupées qui est de plus en plus sexué. Les tenues le sont. Alors, voilà, la culture l'est effectivement de plus en plus. Alors, ça, c'est peut-être un effet induit et pervers, qui n'était pas d'une certaine libéralisation des pratiques sexuelles. On dit voilà, on fait ce qu'on veut, et donc qu'est-ce qu'on veut ? Et bien, c'est là qu'on voit les groupes dominants. Hein. Les hommes vont imposer un modèle de la sexualité qui est avec une femme qui a telle ou telle caractéristique. Bon, les hommes, on s'en fiche un peu, hein, c'est eux qui mènent le jeu. Mais les femmes sont définies par les caractéristiques qui vont les rendre attractives.
Arrêtons-nous un instant sur, vous avez parlé du porno, de pornographie, à l'école. Vous avez fait des études là-dessus qui vous ont... Un peu effrayé.
C'est un peu effrayant. Enfin, il y a beaucoup d'études sur cette question qui montrent la diffusion du porno grâce au téléphone portable. Parce que quand il fallait accéder à des sites spécialisés ou à des émissions spécialisées, il y avait parfois des verrous.
Mais des filtres.
Voilà, des filtres. Hein, avec le fait que maintenant les élèves rentrent au collège, on leur offre un portable en général à cet âge-là. Et sur le portable, voilà. Hein. Et les chiffres sont tout à fait effrayants. Alors, en même temps, quand on dit ça, on dit « Oh, vous êtes puritaine, vous avez, il y a censure. » Enfin, voilà, c'est pas très politiquement correct de dénoncer ça. Mais en même temps, il y a des études sur l'effet du porno. Il y en a. Et qui montrent quoi ? Qui montrent d'abord une grande dissymétrie entre les garçons et les filles. Les garçons disent « Oh, on regarde ça pour la rigolade. Hein, » voilà. Mais il y en a aussi qui vous disent « Ça nous apprend ce qu'il faut faire. » Ça commence déjà à être un peu plus gênant. Et les filles vont dire « Nous, ça nous dégoûte. » Et quand les jeunes filles écrivent dans la presse pour jeunes filles, il y a un courrier du cœur qui est très intéressant, on appelle plus ça le courrier du cœur, d'électrice, pardon, courrier d'électrice, ouais. Elles disent, bah oui, mon petit copain, il me demande de regarder du porno, qu'est-ce que je fais ? Et la rédactrice répond, oh oui, bah faut pas s'en offusquer, c'est comme ça, et voilà, faut suivre, hein. Faut toujours faire ce que les garçons attendent. Et ça, c'est le leitmotiv. C'est pour ça que les spécialistes de la sexualité, comme Michel Bozon, disent vraiment, l'entrée dans la sexualité, c'est l'entrée dans l'inégalité. Parce que les filles se mettent à la remorque des désirs des garçons.
Qu'est-ce qui est le plus frappant aujourd'hui ? Vous dites, vous l'avez étudié, vous les avez rencontrés, ces différences entre garçons et filles. Quel effet psychique, psychologique sur eux ?
Ce qui est sûr, c'est
qui n'est pas le même, évidemment, entre garçons et filles.
Qui n'est pas le même, bien sûr. Les garçons, il faut maintenir les filles à leur place. C'est une expression qui revient souvent. C'est-à-dire, oui, c'est des filles. Alors, officiellement, tout le monde est égaux, il n'y a pas de problème, etc. Mais c'est normal que les garçons mènent la danse. Les filles sont toujours en retrait. Mais même, d'ailleurs, dans la culture...
Quelle souffrance, quand je parle d'effet psychique ou psychologique. Est-ce que ça aboutit à des...
Pour les filles, ce qu'on constate, c'est que la confiance en soi des filles, elle décroît entre l'adolescente et la sortie de l'adolescente vers 18 ans. Elle décroît continuellement. Chez les garçons, elle monte. Le garçon aborde la vie, il a tous les cartes en main. Alors évidemment, il y a des variations sociales. Il y a aussi dans les milieux populaires ce que certains ont appelé les crispations virilistes. C'est-à-dire que comme l'avenir ne m'apparaît pas très rose, parce que je suis dans une mauvaise filière, je suis en chômage, etc. On va au contraire se rassurer en se raccrochant aux attributs masculins. Bon, d'accord, je serais peut-être un prolo, mais au moins, j'aurais une femme qui sera en dessous de moi. On a encore ce type de souffrance qui se réfugie là-dessus. Mais du côté des filles...
Parce que c'est dur, et pardon, je reste un instant sur les garçons, c'est dur pour eux aussi, parce qu'ils ont une sorte d'injonction de virilité, qui n'est pas toujours simple à
Bien sûr,
à
mais disons que la souffrance liée vraiment aux images viriles, on la voit surtout dans les milieux populaires. Parce que les garçons de milieux aisés, en plus, ils réussissent bien, ils abordent les meilleures filières, c'est eux qui trustent les grandes écoles, etc. Donc voilà, alors qu'après, il n'y ait pas au sein de cette population même privilégiée des jeunes qui, ne serait-ce que pour des questions d'orientation sexuelle, ne se sentent pas vraiment bien dans leur peau. Ça, c'est probable. Et il y a aussi une littérature là-dessus que je n'ai pas spécialement étudiée. Et ce qui est sûr, c'est que les modèles de genre font souffrir tout le monde. Pour les hommes comme pour les femmes. Hein. J'avais lu un bel article qui s'appelait « La virilité est nuisible à la santé ». Hein, donc ça, voilà, parce que c'est associé à des tas de troubles. Après, ces jeunes, ils vont prendre des risques sur la route, ils vont se planter en moto, parce qu'un homme, évidemment, ça n'a pas peur, etc. Puis quand ils seront ouvriers du bâtiment, ils ne diront pas qu'ils ont peur de travailler sans échafaudage. Enfin, on voit bien que c'est nuisible à la santé. Donc le genre nuit à tout le monde.
Oui. Et donc les filles sont en souffrance plus qu'autrefois dans ce que vous dites.
Alors plus qu'autrefois, c'est difficile. C'est vrai que les normes qui pèsent sur les filles, elles sont devenues vraiment obsédantes. C'est-à-dire que maintenant, il faut être belle et on a les moyens de le faire. J'avais regardé les travaux d'une historienne qui montrait qu'au début du XXe siècle, dans leurs journaux intimes, les filles parlaient de leurs soucis de cœur, etc. Mais il n'y avait pas cette obsession d'aujourd'hui qui est « je suis trop grosse, je suis moche, comment vais-je leur plaire, etc. » qui est vraiment très pesante hein, chez les jeunes filles d'aujourd'hui. Les normes se sont multipliées. On a l'illusion qu'on peut y arriver. Hein, parce que voilà, vous pouvez, c'est belle, si je peux. C'est dur, hein, c'est dur aussi pour les femmes d'ailleurs.
Comment expliquez-vous justement l'aveuglement de la société dans tout ce que vous décrivez là, qui au fond, on vous écoute, on n'est pas plus surpris que ça?
L'aveuglement, quand il y a des inégalités, il y a toujours des gens qui en profitent. Principe de base. Donc on se dit, s'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, c'est parce qu'en fait, ça reproduit un certain modèle de la division du travail. Les femmes, si elles sont obsédées par la séduction, hein, elles sont obsédées par la séduction, parce que ça, c'est le modèle très traditionnel. Les femmes ont besoin de quelqu'un pour fonder une famille, hein, donc il faut qu'elles soient séduites, elles sont à la remorque des hommes. Et donc, on a un modèle qui est accepté parce qu'il entretient cette idée de complémentarité. D'ailleurs, il y a toute une famille de pensée qui dit il ne faut pas parler d'égalité en la pensant comme une identité, mais en la pensant comme complémentarité. Ce qui est quand même le socle de l'organisation sociale, c'est qu'il y a une complémentarité. Et in fine, derrière, il y a la représentation de la reproduction. On en revient toujours là. Derrière tout ça, il y a le sexe et la reproduction.
Est-ce qu'on s'appuie aussi plus qu'avant sur une forme de... J'utilise les mots prudemment, de naturalisme, au fond. Est-ce que la biologie joue aussi son rôle dans cette différenciation, comme ça?
Oui, la biologie, on passe son temps, c'est très récurrent, ça. Il y a vraiment des modes de biologie. Si on regarde même la une des grands hebdomadaires, c'est un marronnier que de dire nature, culture, les femmes pensent différemment, ça y est, on a trouvé le gène qui, etc. C'est vraiment un marronnier. Hein,
ou elles seraient moins violentes si elles étaient au pouvoir,
voilà,
ce type de...
Oui, des choses comme ça, qui, in fine, s'appuient dans la nature. Et ça, on le voit quand même particulièrement ces dernières années, avec la mode de ce qu'on appelait la psychologie évolutionniste, qui va chercher les racines des différences psychologiques supposées entre hommes et femmes dans l'évolution, on dira. Mais oui, c'est parce que c'est le succès de ces ouvrages. Hein, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Bon, on se dit, bah oui, mais ça, c'est tellement grotesque que personne n'y croit. Pas du tout. Ça se vend comme
très bien.
Pépins, ça marche très, très bien. Et ça nous explique que la situation actuelle, elle est bien parce qu'elle résulte de l'évolution. C'est vraiment la démarche conservatrice par excellence. On nous dit, il y a des comportements qui ont été sélectionnés par l'évolution parce qu'ils étaient fonctionnels. Donc, respectez la nature, mesdames, quand on lit ces ouvrages. Ils s'adressent surtout aux femmes, d'ailleurs. On leur dit, il ne faut pas heurter votre mari, c'est normal qu'il soit volage. Parce que historiquement, l'homme, il cherche à faire une descendance comme ci, comme ça. Enfin, il y a tout un discours qui repose sur une représentation fantasmée de nos ancêtres et qui dit ce qui était vrai pour nos ancêtres vaut aujourd'hui et ça sert à rien de ramer à contre-courant. Donc, on a ce discours hein, de la psychologie évolutionniste hein, qui marque beaucoup et qui peut rencontrer un peu par hasard d'autres discours comme une certaine mouvance écologiste qui va reprendre aussi ce thème de la nature en disant il faut respecter la nature et qui, de fait, va devenir conservatrice.
Alors venons-en à l'actualité, Marie Durubella, à la lumière de tout ce que vous dites ici, tout simplement ce que vous pensez, alors commençons par là bien sûr, de ce grand mouvement déclenché par l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis.
Je pense que moi ça m'a fait très plaisir, parce que quand on parle avec des femmes de ce qui peut leur poser un problème dans leur vie quotidienne, beaucoup mettent en avant des choses qu'elles estiment être personnelles et disent « Oui, bon, moi ça va, mais j'ai quand même peur de sortir le soir dans certains quartiers, j'ai peur, mais enfin c'est parce que je suis trouillarde. » C'est-à-dire qu'elles renvoient toujours leurs problèmes à des défauts personnels. Ce que disent globalement les femmes, c'est « moi aussi j'ai peur ». Ou bien, moi aussi, hein, ou quand ils disent, bah oui, je me suis fait un peu embêter là au travail, c'est peut-être parce que j'avais mis une robe un peu comme ci, comme ça, c'est toujours « moi ». Mais non, hein, c'est « moi aussi ». Donc, elles découvrent que, collectivement, en tant que femmes, justement, il y a des phénomènes qui les touchent spécifiquement, et c'est bien de le dire, parce que pour les hommes, c'est toujours des détails. On dira, oh bah oui, mais c'est pas grave, c'est une petite réflexion, c'est rien. Mais c'est rien, mais c'est tout le temps. Et donc là, dire, ben non, ça vient à Mars, on supporte plus ce genre de choses, je trouve que c'est tout à fait positif.
Mais en revanche, vous n'allez pas aussi loin que beaucoup d'associations féministes et même beaucoup d'initiatives prises par les États. Alors restons simplement sur la France. Il existe un Haut Conseil à l'égalité qui fait des propositions constamment, c'est son rôle. Vous n'êtes pas d'accord avec tout?
Non, je ne suis pas d'accord avec tout.
On prend quelques exemples. Congé paternité, je crois que je vous ai lu là-dessus.
Oui, alors par exemple le congé paternité, dire on va l'allonger pour tout le monde. personnellement, en tant qu'individu.
On va lui donner la même durée, hein, c'est
pour ça. Voilà, la même durée, voilà, pour forcer, entre guillemets, mais c'est ça, forcer les hommes à s'intéresser davantage aux petits-enfants et mieux partager le travail.
Et les femmes, alors, laisser un peu plus de place, parce que certains le disent.
Oui, plus de place pour leur carrière, mais qui fait une carrière? C'est-à-dire que je trouve que souvent, les positions de haut conseil représentent une conception de l'égalité qui se trouve être la mienne, mais c'est plutôt la conception des femmes instruites, alors que finalement, beaucoup de femmes, une femme qui est OS dans une entreprise où elle se tue au travail, elle est peut-être bien contente d'avoir un congé un peu plus long. Et c'est-à-dire qu'on impose, on promeut une conception de l'égalité qui est forcément située. Nos conceptions, elles sont toutes situées selon la position qu'on occupe. Hein. Et parfois, ça me choque un peu parce que on fait comme si c'était partagé. Mais non, il y a des couples aujourd'hui qui ont une conception de l'égalité complémentarité en disant, ben oui, moi en plus j'ai un boulot un peu pénible, et ben je trouve ça bien de prendre le congé. Et puis lui, ben ça va, ça fait partie plus de sa mentalité. Justement, il a été élevé comme ça. Je suis gagne-pain. Hein. Je fais mon boulot. On est chacun de notre rôle. Ça nous convient. Donc là,
oui,
on
impose. Vous le dites, il a été élevé comme ça, vous voyez.
Mais bien sûr. D'accord. Oui, mais enfin, on déconstruit pas les choses avec des lois en disant on va vous forcer à faire ça. Je trouve que des fois, c'est un peu, on impose notre conception et il y aura pas de problème. Des fois, il y a des problèmes. On l'a vu, par exemple, on en a lancé des ABCD de l'égalité. Vous savez, ces programmes pour lutter contre le sexisme à l'école. Il y a eu des réactions qui ont surpris de la part de certains milieux sociaux et culturels, disant mais non, nous on veut pas de ça. Pourquoi? Et ils disaient même touche pas à mes stéréotypes, ce qui est vraiment horrible. Ils disaient ça. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une conception d'égalité, complémentarité, en disant, ben oui, mais nous, on trouve normal que ça... Donc, je ne suis pas en train de dire que toutes les conceptions, il faut les défendre, mais il faut être conscient qu'on a certaines positions et que ce n'est pas évident de les balancer comme ça, y compris avec un texte de loi, pour que ça marche. Voilà.
Marie Durubilla, je le redis, sociologue et féministe, vous êtes favorable, je pense, à la féminisation des noms de métiers?
Alors, dans le langage, il y a des choses qui s'imposent quand on est féministe. Par exemple, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est absurde, facile à corriger. De même, l'accord de proximité.
Quand il suffit de corriger la règle de grammaire.
Voilà, exactement, qui ne sont pas intangibles, qui ont été créés à une telle époque. On peut revenir, tout ce qu'on a créé, on peut le défaire. Donc là, pas de problème. Par contre, mettre en avant sans arrêt le sexe des personnes, ça me gêne plus. Parce que est-ce que le sexe des personnes est toujours une caractéristique pertinente dans ce qu'on est en train de faire? Et c'est pour ça que mettre des « e » partout me paraît...
Écriture inclusive, c'est absurde pour vous?
Oui, je vois pas l'intérêt de mettre des « e » partout. Est-ce qu'on va mettre des individus « e » ? Est-ce que quand on dit, par exemple, les personnes, on va pas enlever le « e » parce qu'on parle des hommes, les hommes sont des personnes. Eh ben, il y a un « e ». Ah, manque de chance, on va enlever le « e ». Et puis individu, ah, il y a pas de « e », on va mettre un « e ». On voit bien que c'est absurde. Et on n'agit pas toujours à tous les instants comme quelqu'un qui est sexué. Il y a d'autres caractéristiques qui vont être mises en avant selon les caractéristiques de ce qu'on est en train de faire. Donc je pense que ça crée une obsession du genre.
Et même une régression, vous dites.
Mais oui, parce qu'on n'est pas toujours en train de se dire « Ah là, je fais comme ci, je fais comme ça ». Enfin, non, non. Je pense qu'il y a des rôles qui ne sont pas sexués et que ce n'est pas la peine de mettre des « e » partout. Alors on dira « Mais
c'est-à-dire
si... »
quand vous parlez de votre métier, vous êtes d'accord pour qu'on le féminise?
Ouais, ça
mais quand vous faites du jardinage chez vous,
voilà,
on n'a pas besoin de savoir que vous êtes une femme.
Absolument. Puis même des choses qui paraissent typées, même quand je fais du sport. Si je fais du sport toute seule, par exemple, si je cours, je peux me sentir très forte et me sentir comme un athlète. Voilà. Et j'ai pas besoin qu'on me dise, ah ben oui, mais t'es une femme, donc t'es moins bonne. Attention, faut pas aller trop vite, le cœur. Non. On fait ce qu'on a à faire.
Vous dites d'ailleurs que dans certains pays, certaines langues, mais le hongrois,
n'ont pas de genre. Et ça ne veut pas dire que les inégalités sont moins marquées. Donc, il ne faut pas non plus donner à la langue. Je sais bien, la langue, c'est important, c'est symbolique, tout ce qu'on veut. Il ne faut pas exagérer. Ça devient vraiment, à mon avis, contre-productif.
Et par ailleurs, c'est aussi un passage assez amusant de votre ouvrage. Vous dites les valeurs fondamentales pour la vie sociale, si les femmes seraient meilleures dans tel ou tel domaine, mais alors pourquoi ne pas éduquer les garçons si elles sont...
Absolument.
Si c'est une valeur tellement importante.
Bien sûr.
Pourquoi ne pas l'apprendre aussi aux garçons?
Bien sûr. C'est pour ça que cette idée d'égalité dans la différence est stupide, parce que l'égalité dans la différence, ça veut dire on est différent, mais on veut le rester. On veut le rester, hein. On veut cultiver nos différences. Chacun va cultiver ses différences. Et voilà. Mais c'est idiot. Si on pense que c'est bien que nous, les femmes, on est bien parce qu'on est attentive aux autres, on aimerait bien que ce goût des autres, là, il soit partagé par les hommes. On aimerait bien, hein. Donc ça, c'est aussi les apories de la parité. Parce que la parité se fonde là-dessus. Hein. Les hommes et les femmes ont des choses différentes à apporter. Ah bon? Eh ben, quoi? Et quand on demande quoi? Eh bien, vous avez la liste des stéréotypes les plus éculés qui vont ressortir. On dira, voilà, on dira, ben oui, les femmes, elles font enfin, attention aux autres, elles sont douces, elles sont moins obsédées. Pas... Mais oui, peut-être au jour d'aujourd'hui. Ce qui fait la complexité de la parité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être. Et peut-être qu'il faut faire quelque chose. Mais attention, hein, si on pense que c'est comme ça, on revient à la nature et à la maternité, ce qu'on évoquait tout à l'heure.
précisément, parlons de l'avenir. Vers quoi allons-nous, là, quand vous nous dites, par exemple, qu'on est plus, les petites filles sont de plus en plus sexuées, que vous en êtes inquiète?
Bah, oui, j'en suis inquiète. Oui, absolument. J'en suis inquiète. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin quand même de lutte et de mouvement. C'est pour ça que ce mouvement actuel est intéressant. Et je pense qu'on a besoin des mouvements féministes. Moi, ce qui m'a beaucoup réconfortée, si on peut dire, quand j'ai fait ce livre, c'est que à cette occasion, j'ai relu tous les... Enfin, j'ai lu ou j'ai découvert les ouvrages faits par des jeunes féministes. Et il y a à l'heure actuelle une mouvance féministe qui est dynamique.
Très active.
Voilà, ouais. Très active.
On en reçoit
quelques-unes. Donc ça, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Mais je pense qu'il faudra des luttes parce qu'il y a des rapports de pouvoir derrière tout ça. Il y a des choses à conquérir. Et ça se fera pas tout seul. On peut pas... En tout cas, les gens qui pensaient que, oui, gentiment, on va aller vers plus d'égalité, non. On le voit à l'heure actuelle, et donc on a besoin de ces mouvements.
Les institutions sont très affaiblies, c'est peut-être aussi ça une des causes qui laisse comme ça la place libre à ce que vous dénoncez, je veux dire, l'Église, l'école, la famille, même l'État.
Bah, l'Église, on ne sait pas si elle devrait dans le sens de l'égalité, mais disons qu'elles sont peut-être affaiblies relativement.
En tout cas, elles ont perdu leur pouvoir d'influence.
Oui, bah, parce qu'à côté, il y a la montée du capitalisme, pour ne pas appeler un chat, qui va plutôt segmenter, exploiter certains filons, comme la pornographie, etc. Donc, c'est plutôt le décalage de poids relatif, quoi. Mais que l'école ait moins de poids, sans doute, mais elle a quand même encore beaucoup de poids. Les médias ont beaucoup de poids.
Alors, le rôle des médias, justement, quel doit-il être?
Je pense qu'il y a un rôle, enfin, la culture et les médias, marchent quand même plutôt ensemble, théoriquement, ont un rôle à jouer, parce que les jeunes sont très dépendants des médias, justement. On souligne beaucoup qu'ils écoutent autant les médias, voire plus que leurs professeurs, donc c'est quand même extrêmement important. Mais le problème, c'est qui s'exprime dans les médias. C'est-à-dire que les médias... qui invite-t-elle, etc. Et là, il y a aussi des intérêts qui vont s'exprimer. Qui veut inviter tel ou tel dans tel type de chaîne, dans tel type de journal? Enfin, rien ne se fait spontanément, quoi. Il faut vraiment être vigilant.
Rassurez-nous, Marie Durubella, quelles sont les avancées que vous voyez dans l'égalité?
Il y a des avancées qui sont sans
doute les hommes et les femmes.
Irréversibles. Bon, l'accès à l'éducation est irréversible. On n'imagine pas, même s'il y a des débats sur la mixité, mais c'est un autre problème, c'est pas forcément un retour en arrière. Donc l'accès à l'éducation est irréversible. Je pense que la diffusion des femmes dans un centre de milieu, notamment le milieu politique, elle est irréversible. Le problème, c'est est-ce que ça entraînera pour la masse des femmes des avancées significatives au-delà de la satisfaction qu'ont les femmes élues à être enfin élues. Donc là, c'est une question qui reste ouverte. Mais on peut considérer que c'est relativement porteur d'avenir. Et puis au niveau de la planète, je pense qu'il y a des avancées. Il y a des avancées avec l'enrichissement dans certains pays pauvres, l'accès des femmes à l'éducation, qui dans certains pays pauvres est inexistant, qui progresse. Donc au niveau de la planète, il y a peut-être plus de signes d'optimisme que dans les pays où on est déjà à un certain stade.
Ah, ça veut dire que nous, on serait plutôt en recul, on est allé un peu...
Non, mais disons que nous, l'évolution est forcément plus longue, parce qu'on est sur une... voilà, c'est asymptotique, on a déjà fait beaucoup de pas en avant, et c'est toujours les dernières marches qui sont les plus difficiles.
Et le meilleur outil, pour revenir à votre vocation première, et qui est constante, l'éducation.
Je pense que l'éducation a un rôle très important, mais les structures aussi, c'est-à-dire qu'on a beau éduquer les garçons et les filles pareil, tant que dans la vie économique, les femmes gagnent moins, eh bien le partage des tâches... il va rester inégal. Et c'est rationnel. C'est rationnel qu'une femme s'arrête de travailler si elle gagne deux fois moins que son époux. Donc, c'est à la fois de l'éducation, mais tout ça, il y a des structures. Il n'y a pas que les mentalités. C'est aussi quand on dit, oh, on va changer les mentalités. OK, mais les mentalités avec les structures, ça marche ensemble.
Eh bien, merci beaucoup. On aurait pu ajouter que tout ce que vous dites là peut aussi valoir pour d'autres minorités.
Oui, absolument.
Ça peut faire l'objet d'une autre rencontre avec vous. Merci infiniment, Marie Durubella. La tyrannie du genre, vraiment intéressant et assez décapant, comme on a pu déjà l'entendre, paru aux éditions Sciences Po Les Presses dans la collection Genre, je le redis. C'est un peu ironique. Merci encore d'être venu nous trouver à Matière à penser. Émission réalisée ce soir par Alexandra Longuet avec Olivier Dupré. Et merci aussi à Laurence Genepin, bien sûr, pour la préparation, la documentation, plein de titres à vous suggérer d'ailleurs, des travaux de Marie Durubella et de ses collègues sur ces sujets importants. On aura l'occasion d'y revenir. On se retrouve de toute façon mercredi soir et sur Twitter. Vous pouvez venir nous donner votre avis sur notre site également. Sur Twitter, moi je réponds @domrousset. Merci à tous et très très bonne fin de soirée avec Création On Air.